Sur les docks, bonjour Irène Nomelianenko.
Bonjour Hervé Gardette. Alors pour la collection Sur les lieux, nous allons nous rendre aujourd'hui à Villetaneuse où Judith Mayer a été détachée dans le cadre de l'Université Paris 13 pour donner des cours aux étudiants du cursus de sciences de l'information et de la communication. Elle a découvert une université extrêmement vivante où les expérimentations pédagogiques sont bienvenues et en parallèle essuyait des remarques proches de la compassion sur le fait qu'elle donnait des cours si loin des centres prestigieux du Paris intramuros.
Et à Villetaneuse, Irène, il y a aussi la radio 13e Monde.
Oui Hervé, une radio où à la suite des attentats survenus les 7 et 9 janvier 2015, certains étudiants avaient notamment décidé de mener leur propre enquête en interviewant leur entourage et les enseignants pour construire leur pensée. Aujourd'hui, le thème sera la banlieue, telle qu'elle est, au-delà des stéréotypes, une banlieue cultivée et pleine d'ambition qui ne se laissera pas enfermer dans la représentation médiocre qui en est faite.
Et après, il y aura Janice, donc ça, c'est ça. Ouais, voilà. Donc ça, c'est la liste des gens. Ouais. Donc, quoi, Samia et Léa, quand il y en a deux, c'est là et là. Tu vois, un là, un là-bas. Ouais. Dire de venir tout de suite, ça commence là. Et dis-leur bien que quand ils s'assoient, ils font avec la chaise, pas de bruit. Tu lèves ta chaise, tu la poses comme ça.
Direct dans 20 secondes.
Université Paris 13, une fac dans ma banlieue. Un documentaire de Judith Mayer et Julie Bérécy. C'est la fin du premier semestre à l'Université Paris 13. Des étudiants de licence des sciences de l'information et de la communication réalisent en direct l'émission de leur radio 13e Monde. J'enseigne dans ce cursus depuis bientôt 5 ans. Comme eux, je fréquente le campus de Villetaneuse au quotidien. Au fil des années, je les vois évoluer, leurs ambitions mûrissent. Sydney, originaire du Gabon, navigue avec aisance d'un pays et d'une ville à l'autre. Élie, quant à lui, se sent mieux à Paris 13 qu'à la Sorbonne où il étudiait l'histoire auparavant. Raphaël, Justine et Marc, qui vivent chez leurs parents, traversent chaque matin le Val d'Oise en Transilien pour rejoindre la fac. Éline considère comme un atout de baigner dans plusieurs cultures, tandis que Janice rêve de lever l'ancre pour de nouveaux horizons. À contre-courant des représentations médiatiques de la banlieue qui, de leur propre aveu, ne leur ressemble pas, comptent-ils tous à nous apprendre de leurs univers.
Monde. Et si on s'écoutait parler?
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission semestrielle de la web radio de l'Université Paris 13, 13e Monde. J'ai le plaisir d'être accompagné par Janice. Bonjour Janice.
Bonjour Thibault.
Nous sommes tous deux étudiants en sciences de la communication en 3e année et avec quelques-uns de nos camarades ainsi que certains de 2e année, que je salue, bonjour à tous qui sont ici dans le public aussi, nous participons au fonctionnement de cette web radio étudiante. Tous les reportages et articles, interviews des professionnels, d'artistes, de personnalités politiques et sportives, enquêtes sur le terrain, sont à retrouver sur notre site webradio.univ-paris13.fr. Avec nos équipes d'apprentis journalistes, nous travaillons depuis septembre sur la représentation de la banlieue dans les médias et dans l'esprit collectif. Et la première partie de cette émission aura pour but de montrer qu'en banlieue, nous ne mangeons pas les enfants, pour reprendre le titre d'une tribune de Thomas Guénolet, et que la banlieue peut être une véritable source de richesse. Cette première partie sera composée de reportages. Comment la banlieue est-elle perçue dans le 16e arrondissement de Paris? Samia nous présentera son enquête de terrain. Samia est déjà avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Le regard du sociologue Fabien Truong, auteur de Jeunesse française, Bac plus 5, Mendine banlieue, interrogé par Janice. Et d'autres audios, notamment la réaction du chanteur Merwan Rim que Mathilde, Elisa et moi-même avons rencontré. Un artiste qui prend aujourd'hui les clichés à la rigolade. Mais 13e Monde traite aussi d'actualité. Nous reviendrons donc sur le résultat des élections régionales d'hier avec Sydney. Essayons d'abord de comprendre quels sont ces préjugés très présents dans l'esprit collectif. Samia est avec nous. Tu as été enquêtée dans Paris et tu as notamment rencontré Myriam, une jeune femme de 23 ans, habitante du 16e arrondissement. Quelles questions lui a-t-elle posé et pourquoi as-tu voulu faire ce reportage?
J'avais pour projet de partir à la rencontre de plusieurs personnes, plus que dans le quartier.
Alors là,
sont dans le couloir F207. Ça peut paraître incongru, mais c'est un lieu qu'on aime bien. On s'assoit par terre, voilà, parce que il n'y a pas de chaise. On s'assoit par terre et on discute juste avec les filles. C'est calme, il n'y a personne autour. Et on aime bien garder nos conversations pour nous, parce que voilà, donc on chuchote parce qu'on sait qu'il y a les profs. On trouve que c'est un coin approprié pour nos activités de discussion, nos débats, voilà.
Sydney, 21 ans, 3e année.
Et c'est lumineux. Vous voyez, la grande fenêtre, c'est illuminé et on a une vue sur le parking. Mais bon, voilà. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien.
Quand vous êtes arrivée ici, à Paris 13, en banlieue, et que vous avez emménagé en banlieue également, qu'est-ce que vous avez éprouvé?
J'ai rien. Honnêtement, rien. Parce qu'au Gabon, en fait, je viens du Gabon. C'est comme si on était tous des... C'est comme si on était tous des jeunes de banlieue, en fait. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment eu de différence entre ici et là-bas. Pour moi, c'est comme si, à part l'environnement et le fait de me retrouver seule du jour au lendemain, pour moi, il n'y a eu aucun changement. La fac, c'est un peu comme mon école. Il y a plusieurs cultures qui se retrouvent, que ce soit de l'école primaire jusqu'au collège, jusqu'au lycée. Ça a toujours été ce parcours-là. Des enfants plus aisés qui se retrouvaient avec des enfants un peu qui venaient de familles un peu plus compliquées. Ça a toujours été comme ça chez moi. Donc moi, personnellement, je n'ai vraiment pas eu de changement d'environnement à ce point-là. Et donc, à l'issue de mon bac B, j'ai décidé...
Au Gabon, donc
au Gabon, ES, en France. J'ai décidé de faire des études de communication. Donc, j'ai eu mon BTS à Lille. Et quand j'ai envoyé les dossiers pour la troisième année, il y a ma mère qui m'a dit, parce qu'elle était à Paris 13... On ne sait jamais, je sais que par rapport à mon époque, ça a beaucoup changé, mais ça doit être ici quand même une assez bonne fac, donc postule. Je me suis renseignée, voilà les échos qu'on a sur Paris 13, voilà, c'est les échos qu'on a sur Paris 13, ils peuvent être bien, ils peuvent être mauvais. Mais j'ai quand même envoyé mon dossier, j'ai dit qu'il ne tente rien à rien. Et en juillet, j'ai eu ma réponse, liste principale. J'étais très très contente, j'avoue. Et donc me voilà aujourd'hui. Et très heureuse de mon parcours jusqu'à maintenant, de ce que je vis à la fac, moi qui, j'avoue, je suis allée en BTS principalement parce que la fac ne me disait rien.
13e Monde traite aussi bien d'actualité. Pour ce faire, nous avons avec nous Sydney. Bonjour Sydney.
Bonjour Thibault.
Tu nous as préparé une revue de presse à propos des élections régionales. Sydney, c'est à toi.
Alors concernant les élections régionales qui se sont déroulées le 6 et 13 décembre 2015, moi, je ne suis pas électrice, je ne suis pas française, donc je ne vais pas voter, mais ça ne m'a pas empêché de m'intéresser aux enjeux de cette élection et notamment chez les jeunes. Donc concernant les jeunes, le FN a fait 33% chez les 18-24 ans. Et je me suis intéressée à qu'est-ce qui pousse des jeunes à voter pour le FN.
Alors vous dites que votre maman a quand même eu son mot à dire par rapport à vos études. Mais votre maman, elle habite au Gabon et elle est venue faire ses études à Paris 13 à l'époque.
Alors, à l'époque de ma mère, voilà, c'était pas vraiment le même, c'était pas vraiment, quel euphémisme, pas du tout le même fonctionnement qu'aujourd'hui. Le père de ma mère, donc mon grand-père, était un homme très strict. Et à cette époque-là, elle a été l'une des rares dans la famille à pouvoir avoir la chance de partir à l'étranger, faire ses études. Donc elle a eu Paris 13 et elle en a gardé un excellent souvenir. Du coup, pour elle, c'était logique de me dire de postuler à Paris 13. Elle a vraiment beaucoup d'ambition. Elle vit pour son travail. Elle ne peut pas comprendre quand quelqu'un ne réussit pas. Du coup, cette pression qu'elle se met, elle la met sur nous, sur moi en ce moment. Pour elle, c'est études qui mènent à un bon travail, passer par une bonne école. Dans ma famille, c'est bac plus 5 ou rien. Hors de question de m'arrêter en bac plus 2 ou bac plus 3. Donc ma mère, pour elle, Paris 13, c'était la voie logique, malgré le fait qu'aujourd'hui, elle sait que c'est plus la même chose qu'avant. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué avec les émeutes qu'il y a eu il y a quelques années. Donc elle, quand on se parle au téléphone, c'est quand tu prends le bus, ça va bien, personne ne t'embête. À la fac, il n'y a pas plein de voyous là autour de la fac. Je fais non, ça se passe bien. Je pense qu'il y a assez d'agents de sécurité aux portes de toute la fac. Quand je prends le bus, il n'y a pas de problème. Dans le bus, c'est des personnes qui vivent dans le 93. Ce n'est pas du tout un problème, donc ne t'inquiète pas. J'essaie de la rassurer au maximum. Voilà, c'est pas parce que c'est en banlieue que l'image que les médias te renvoient, toi qui es un peu plus loin, tu vas dire que voilà, il y a des problèmes tous les jours. Alors que voilà, depuis septembre, j'ai eu aucun problème. Je me sens complètement à l'aise, je suis tranquille, je suis en sécurité. Donc Et depuis la première année, c'est l'établissement où il y a le plus de diversité. Il y a beaucoup plus de nationalités, il y a beaucoup plus de religions, des personnes qui ne vivent pas de la même façon, qui ne voient pas le monde de la même façon, qui ont vraiment des parcours vraiment totalement différents. Et toute cette diversité qu'il y a, toutes ces personnes différentes qui viennent de différents milieux et qui arrivent à se côtoyer, pour moi, c'est tout à fait normal. Je retrouve, par contre, c'est quelque chose que je retrouve de ce que j'avais dans ma vie d'avant. Quand j'étais au Gabon, pour moi, ça a toujours été normal. Donc, pour moi, les problèmes, souvent, que je lis dans la presse ici, pour moi, ça me passe souvent au-dessus de la tête parce que, pour moi, c'est juste incompréhensible. Dans un même pays, on ne peut pas toujours retrouver que les personnes de la nationalité du pays. Les gens, enfin, sur la Terre, ils sont faits pour bouger, comme voilà. Ils sont faits pour voyager, s'installer dans d'autres pays. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait cette diversité-là partout.
Et après votre bac plus 5, vous pensez rester en France ?
Je ne me vois pas vivre et travailler ou finir ma vie ici. J'ai besoin, en fait, de voir d'autres horizons, voir comment ça fonctionne dans d'autres pays. Et je me dis, comme moi, je suis jeune, je suis encore dans mes études, pourquoi ne pas commencer ma vie professionnelle à l'étranger. Il y a plein d'opportunités et j'ai vraiment envie de vivre ces expériences-là. Maintenant, je dois aller à mon cours de Zumba qui va commencer dans 10 minutes. Donc, il faudrait que je me dépêche parce que je dois me changer aussi.
Moi, je suis née à Carcassonne, dans le sud de la France, et je suis arrivée donc vers mes 11 ans dans le 95. Voilà, Deuil-la-Barre, j'ai vécu à Soisy-sous-Montmorency, j'étais au lycée de Montmorency, Enghien, donc toutes ces villes-là qui sont adjacentes, je les connais très bien, c'est là où j'ai grandi, finalement, c'est là où j'ai vécu mon adolescence.
Élie, 22 ans. Deuxième année.
Donc déjà depuis très jeune, je savais que j'allais être en L, en littéraire. Une fois que je suis arrivée en première L, là, je me sentais enfin comme un poisson dans l'eau. Et ensuite, comme choix d'études dans le supérieur juste après mon baccalauréat, j'ai décidé de faire une classe préparatoire Hippocagne sur Paris. Et d'ailleurs, on me disait que je m'en souviens encore, mon professeur de philosophie à l'époque me disait que ça ne servait à rien que je le mette en premier vœu sur admission post-bac parce que je n'avais aucune chance de l'avoir étant ressortissant d'un lycée de banlieue. Et malgré mon assez bon niveau, même plutôt bon pour l'époque, on a eu de cesse de me décourager ou de me faire entendre que je l'obtiendrais pas. Et bizarrement, je l'ai obtenu.
C'est comme si on nous faisait comprendre, du moins en tout cas c'est admis par, disons, la majorité des élèves, et même on le fait sentir, même je pense par les professeurs, qu'il y a une qualité de l'enseignement qui est supérieure sur Paris par rapport aux facs parisiennes, aux grandes écoles, à Sciences Po, à la Sorbonne, à Assas, enfin tous ces grands noms, que c'est les premiers noms d'écoles qu'on connaît, enfin moi personnellement c'est les premiers noms d'écoles que j'ai connus, c'est Louis le Grand, c'est des noms comme ça qu'on a appris, et du coup on se dit tous, ah bah ça c'est sur Paris. Bien, c'est la première fac que j'ai appris à connaître, c'était pas ni Saint-Denis, ni Paris 13, enfin ça je les connaissais même pas à l'époque.
Et où se situait cette prépa parisienne, Élie ? Et
donc c'était au sein du lycée Jules Ferry, place de Clichy. Et j'habitais alors, à ce moment-là, encore à Deuil-la-Barre, à la limite d'Épinay, Villetaneuse, Deuil-la-Barre. On a la chance d'avoir la ligne H qui, en une quinzaine de minutes, nous amène à Gare du Nord. Puis Gare du Nord, c'est une plateforme qui nous mène après où on veut sur Paris. Donc niveau transport, c'est vrai que j'étais peut-être pas celui qui habitait le plus près. J'habitais encore en banlieue, j'avais ce décalage tous les jours entre deux mondes assez différents, quoi. En plus, ce qui est un souvenir qui me marquera toujours, c'est que le premier ouvrage qu'on a dû lire en littérature en Hippocagne, c'était Illusion perdue. Et finalement, j'ai l'impression que c'était une sorte de drôle de coïncidence que ce soit cet ouvrage qui soit choisi, puisque ça, c'était finalement pas si loin de ce qui était en train de m'arriver, puisque moi je découvrais un Paris, en plus place de Clichy, pour le coup c'est vraiment pas un quartier, c'est vivant certes, mais après c'était peut-être pas le quartier le plus majestueux de Paris, donc je suis arrivée là, moi je partais, je vais à Paris, je vais faire une classe préparatoire, etc. Donc il y avait tout ce rêve que je commençais à créer dans ma tête, et puis... C'est vrai que c'est un quartier où qui n'est pas toujours facile non plus, le quartier de Place de Clichy, je dois l'admettre. Dès que la nuit tombait, franchement, je me sentais plus tout à fait tranquille dans ce quartier, quoi.
Donc là, vous êtes en train de me dire que vous, venu de banlieue, vous vous sentiez plus en sécurité chez vous à Deuil-la-Barre que Place de Clichy à Paris.
Mais en même temps, j'ai envie de dire, moi, ma banlieue, je la connais. Je l'ai vécu. C'est comme dans un village. Vous croisez les gens, vous les connaissez, ou même leur visage, si vous ne les connaissez pas, vous rappelle quelque chose. Il y a une sorte de, voilà, moi, c'est mon quotidien. Donc, forcément, j'ai moins peur de mon environnement, puisque je le connais. Et puis, Paris, le soir et la nuit, il y avait un côté dangereux, quoi.
Alors Ellie, comment ça s'est passé en Cagne ?
En fait, il se trouve que malheureusement, j'avais un niveau très faible en allemand. Et du coup, ça m'a énormément pénalisé pour mon passage en Cagne. Et dès mes 18 ans, j'ai commencé à travailler dans un McDonald's à Épinay-Villetaneuse, justement. Alors, bon, vous pouvez comprendre du coup que faire une prépa et faire un travail, c'était impossible. C'était pas compatible. Ça a joué dans mon échec. J'aurais jamais pu. Et travailler chez McDonald's et réussir ma prépa littéraire, c'était pas compatible. Donc j'ai décidé de passer directement en deuxième année d'histoire, parce que ça restait assez général, et visiblement pour préparer des concours comme ceux du CELSA, etc., il me recommandait d'aller en histoire à la Sorbonne. Concrètement, je garde un très mauvais souvenir de mon passage à la Sorbonne. Je vais pas casser du sucre sur leur dos, hein, mais c'est simplement que... je n'y trouvais pas ma place. Ne faire que de l'histoire toute l'année, déjà c'était pas bon pour moi. Enfin, je m'y retrouvais pas et j'avais perdu la motivation des cours. Et d'autre part, le côté fac parisienne, j'en ai gardé aussi un mauvais souvenir pour plusieurs raisons, ne serait-ce que ça pourrait être l'aspect rapport professeur-élève. Là-bas, en fait, c'était souvent des classes assez bondées. Et même si c'était des profs de haut niveau qui ont écrit des livres, etc. à la Sorbonne, mais il n'y avait pas ce lien, j'ai envie de dire même pédagogique, je sais pas, de suivi entre le professeur et l'élève. Et ça semble pas grand chose comme ça, mais pour moi qui suis quelqu'un qui aime bien l'encadrement, qui était voilà très habitué à la prépa, au lycée où on a un suivi constant, mais je l'avais plus à la Sorbonne et c'est là que j'ai coulé parce que bah, sans ce lien, moi l'école, c'est plus l'école pour moi. Et les élèves, du coup, se connaissaient déjà depuis la L1, j'arrive en L2 d'histoire. Mais malgré mes bons efforts, et puis je suis quelqu'un de nature assez sociable, à la Sorbonne, ça n'a pas pris. Il y avait une bonne catégorie d'étudiants, une bonne partie des étudiants que je trouvais pédants. Ou alors peut-être que c'est peut-être mon regard de banlieusard sur eux, j'en sais rien. Mais vraiment, pour moi, c'est comme ça que je le voyais.
Voyageurs sont invités à descendre. Merci.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire à l'université Paris 13 ?
J'ai un peu honte de le dire, mais j'ai redoublé pour la première fois de ma vie ma L2 d'histoire, du coup. Et c'est là que je me suis commencé à m'intéresser au cursus d'information communication qui ne sont pas proposés dans beaucoup de facultés. Et donc, c'est présenté à moi Paris 13 Villetaneuse. Sachant que j'ai vécu pendant plusieurs années à Épinay-Villetaneuse, pour moi, je me suis dit, tiens, en fait, c'était juste à côté de toi, mais tu ne l'as pas vu. Trois rues près, j'avais la fac de Paris 13 avec un cursus qui correspondait à mes attentes. Et tout ça parce que aussi, il y avait cette pression dans mon lycée pour faire une fac ou une prépa parisienne. Et j'ai eu une réponse, j'ai été pris, et là, un nouveau souffle, quoi, un nouveau départ. Bah finalement, j'ai l'impression quelque part d'être retourné dans une sorte de prépa par rapport aux petits effectifs de classe. Ça permet d'avoir une vraie participation active des élèves, une vraie interaction entre le professeur et les élèves, ce lien
que moi je cherche en tout cas dans mes études qui m'aident à avancer. Et je l'ai retrouvé enfin à Paris 13.
Et vous vous sentez mieux entourée aussi socialement ici? Vous avez plus d'amis?
Ah, vous faites bien de me le dire parce que c'est totalement le cas. J'ai pris une photo l'année dernière, je suis très active sur les réseaux sociaux, et j'ai pris une photo juste de mon groupe avec qui j'allais manger, etc., en L1. Et la photo, enfin, on est 25 dessus. Pour vous dire, en fait, la sorte de coalition qu'on avait dans la classe, je trouve qu'il y a, une entraide, c'est ce côté, ça va être un peu gros de dire ça, mais fraternel, tout simplement, qu'il peut y avoir entre les élèves, peu importe à quoi ils ressemblent, quelles sont leurs aspirations. La mentalité des banlieusards n'est pas la même. Quand je pense à ma banlieue, ou du moins l'espace, l'environnement dans lequel j'évolue, c'est plus un arc-en-ciel. C'est pas juste bleu, rouge, vert, noir.
Et Justine, nous venons de monter dans le train à Luzarches et nous allons ensemble à Paris 13, à l'université. Vous faites ce chemin tous les matins?
Bah oui, c'est ça, tous les matins pour venir à la fac.
Moi ça diffère un petit peu, ça dépend soit en voiture, soit en train.
Donc c'est la campagne?
Oui, c'est la campagne, oui. La campagne proche banlieue. Peu de gens considèrent que c'est encore la banlieue, mais oui, effectivement, c'est encore la banlieue. Souvent on me dit c'est la banlieue chic de Paris. Enfin, moi je sais que j'ai de la chance d'habiter par ici parce que c'est calme, c'est tranquille, c'est joli. Enfin, c'est quand même une atmosphère assez zen. Ça joue vachement sur mon moral.
C'est plus relaxant que l'idée qu'on a vraiment de la banlieue, comme les tours, des trucs comme ça. Donc c'est plus reposant en fait quand on arrive ici.
Parce que le train, c'est pas du tout l'image qu'on peut se faire du train de banlieue. Est-ce que vous pouvez me le décrire?
Ils sont assez modernes. C'est pas les trains qu'on a dans Paris même, on va dire. Là, ils sont colorés, ils sont assez récents. En fait, on s'y sent bien. On n'est pas oppressé ou quoi que ce soit dans le train. On rentre et on n'a pas... Enfin, on n'y va pas reculons, en fait.
Ce que j'adore aussi, c'est le concept des grandes baies vitrées comme ça, les vitres énormes, très ouvertes sur le paysage. Il y a une vue sur tout le plateau en fait du 95 et c'est beau. Ce que j'aime bien faire le matin, c'est quand je rentre dans le train, généralement il y a des journaux qui traînent sur les sièges et j'en prends un et je le lis pour passer le temps et pour me tenir un peu au courant de ce qui se passe et arriver en cours avec des nouvelles fraîches.
Vous habitez, chacun d'entre vous habite chez ses parents?
Oui, on est tous chez papa-maman.
Moi aussi, exactement, chez les parents pour l'instant, parce que j'ai pas de boulot qui puisse me donner assez de ressources pour avoir un logement tout seul ou un petit appart, même proche de la fac ou quoi. Donc c'est pour l'instant avec les parents.
Moi je sais que c'est aussi un confort d'être chez mes parents, parce que déjà c'est mes parents, et puis j'habite dans un endroit que j'adore.
Là on arrive, on est dans quelle gare?
À Demont.
Et le train commence à se remplir.
Là, on est dans la banlieue pure, on va dire. Ça y est, on rentre, on voit les bâtiments, on voit les stades de foot, on voit les HLM.
Ça, c'est un territoire beaucoup plus urbanisé et c'est vraiment pas des logements sociaux, mais des logements où il y a beaucoup plus de personnes dedans et beaucoup moins de verdure aussi.
Écouen-les-en-Ville.
Je pense qu'on va arriver à Écouen-les-en-Ville, donc du coup, Marc va nous rejoindre. Salut. Ça va?
Ça va.
Ouais, ça va.
Ça va?
T'as trop fatigué, Marc?
Comme d'hab, hein. Surtout moi, tu me demandes ça, moi. Moi, je me lève très tard avant de partir. Mais normalement, je devrais me lever une heure avant. Je me lève une demi-heure avant. Et je cours tout le temps pour avoir le train. Donc, souvent en retard.
Oui, souvent en retard. Mais toi, t'as la chance d'avoir... d'avoir une gare plutôt desservie, parce que par rapport à l'usage, moi je sais que mon train en heure creuse, il faut que je l'attende une heure.
Je l'attends avec toi d'ailleurs.
Et tu l'attends avec moi par bonté.
Donc vous avez choisi Paris 13 aussi pour des questions d'accessibilité?
La proximité, c'était vraiment, vraiment ça, en fait. Je déteste me lever trop tôt pour aller trop loin, ça m'énerve. En plus, Paris 13, c'est cool, donc du coup, je préfère. Infocom, j'ai choisi parce que j'ai pour ambition professionnelle de faire journalisme. Donc du coup, vu que c'est une licence qui offre une théorie, une pratique de tout ce qui est médias, et même journalisme avec l'atelier radio, c'est vraiment une filière qui m'intéressait vraiment et que du coup, bah, j'ai pris, tout simplement.
Raphaël et Justine viennent de ce qu'ils appellent eux-mêmes la banlieue chic. Et vous, Sarcelles, comment vous définiriez ?
Les Anglais, c'est juste à côté de Sarcelles. C'est pas une banlieue chic, comme dirait Justine à propos de Luzarches. Je pense que c'est une banlieue assez, assez en mélange entre l'urbanisme et le rural, en fait. C'est qu'on a des bâtiments, on a des HLM comme dans une banlieue, mais on a accès à des prairies, à des champs à quelques minutes, en fait. C'est ça qui a plu à mes parents quand ils sont venus habiter à Aizenville, c'est qu'en fait on avait accès à Paris en train en quelques minutes, mais on n'était pas loin de la campagne, en fait. C'est ça qui est bien.
Épinay, ville tanneuse.
Voilà, c'est Épinay, avec ses grandes tours, ses bâtiments un peu partout, ses grandes gares et son environnement très urbain. On a des bus qui desservent la fac. Là, on se trouve dans le hall d'accueil de Paris 13. On peut continuer et entrer vraiment dans le cœur de la fac.
La fac, elle met à disposition des fois de...
Tous les matins, il y a 20 minutes.
Il y a le 20 minutes.
Il y a les échos et le monde.
Le monde, et après, il y a d'autres quotidiens de temps en temps. Donc, du coup, on en profite et on en prend un gratuitement.
Et qu'est-ce que vous avez pris ?
Là, j'ai pris le monde ce matin. Et toi aussi, d'ailleurs.
Oui, parce qu'il n'y a pas les autres.
Il n'y a pas les autres aujourd'hui, donc on prend le monde. Puis là, on va arriver dans le forum. C'est comme un grand salon, en fait, où on peut tous se réunir, en fait. Il y a la cafétéria qui est juste là. Au-dessus, il y a le service culturel. Et à gauche, il y a la bibliothèque universitaire de droit et de lettres. Et en face, il y a un espace vert où on peut se détendre et prendre une pause café, une pause clope. Où on peut croiser de temps en temps quelques moutons. C'est assez original. C'est notre tondeuse à nous écologique. Ça fait un peu campagne aussi. C'est assez sympa. On a un âne aussi de temps en temps qui arrive. On a de l'herbe partout, en fait, dans la fac, donc du coup, ils peuvent brouter tranquillement, tout simplement, quoi.
Entrez. Bonjour, bienvenue. Merci d'éteindre vos téléphones portables. Bon, alors on va commencer, je pense qu'on va parler des questions de représentation de la banlieue dans les médias, dans les productions culturelles et ainsi de suite. Ça va, c'est bon, tout le monde est prêt ?
On pourrait poser une question à tous mes camarades de deuxième année et tout simplement leur demander est-ce qu'il y a une culture caractéristique de la banlieue ou est-ce que c'est une image, et, une image construite par les médias, est-ce qu'il n'y a pas une mystification de la banlieue ? Et est-ce que ça, il y a une raison à ces clichés ou est-ce tout simplement c'est un événement qui a causé ça et depuis ces clichés sont repris et maintenus par les médias et par les politiques.
Moi je trouve que c'est une question qui est vraiment difficile. Enfin, j'ai vraiment essayé d'y penser et tout parce qu'en classe justement Hugo avait soulevé le problème du fait que en essayant de casser les clichés, en fait on finissait par en faire nous-mêmes. Et en fait je trouve que c'est vraiment compliqué de savoir si, pour moi, il y a une culture de la banlieue. Il y a une culture qui est vraiment propre à nous, avec, et c'est pas forcément seulement artistique. Enfin, je veux dire, il y a une manière qu'on a de vivre qui est vraiment personnelle. Enfin, on est habitué à passer des heures, par exemple, dans les transports en commun, pour aller à la fac, pour bouger, pour sortir, etc. On est habitué à le faire. Donc, il y a une culture qui est propre à nous. Et en même temps, il y a cet aspect, il y a cette image que les médias ont, et qui, je trouve, est aussi très cliché. Et dans les médias, justement, je trouve qu'on essaye un peu de stigmatiser la banlieue avec les habitants. On croirait qu'on ne se mélange pas entre nous, qu'il y a le quartier des Chinois, le quartier des Arabes, le quartier des Africains, alors qu'en fait, ce n'est pas forcément ça. On se mélange tous, on apprend tous un peu des cultures. Moi, par exemple, j'ai des amis qui viennent des quatre coins du monde et du coup, on a tous appris un truc ensemble, alors que dans les médias, justement, on essaie de casser cette idée, on essaie de nous faire croire qu'on est les uns contre les autres, au moins qu'on ne vit pas tous ensemble avec une certaine harmonie, alors que justement, ce n'est pas le cas. Moi, je trouve qu'on vit... On vit vraiment en harmonie les uns avec les autres et qu'on se respecte tous.
C'est une certaine richesse qu'on a à Paris 13, c'est qu'on est en banlieue. On est tous issus de quartiers et de pays différents et on arrive tous à avoir une espèce d'homogénéité tous ensemble. C'est cette mixité qui se réunit, qui en crée une culture à elle-même en fait.
En fait, pourquoi ce serait une réduction de dire... Je viens de banlieue, je viens de Saint-Denis. Et pourquoi tout de suite ce serait une étiquette qui serait négative au niveau de la société? Pourquoi on associe des thèmes à la banlieue, en fait, c'est ça?
Bah, en gros, ce qu'on peut voir par rapport à comment la politique agit avec les banlieues, c'est que bah, elle se sert beaucoup plus de la banlieue que lors des phases d'élection, par exemple, pour les présidentielles. Et j'ai comme l'impression, enfin, c'est mon avis, c'est que la banlieue est plutôt manipulée justement pour en gros gagner en popularité généralement, gagner des points, etc. Par exemple, on peut voir que tout ce qu'a perdu Nicolas Sarkozy en 2005 avec notamment la phrase Karcher, etc., François Hollande l'a récupéré en 2012 pour les élections parce qu'il a eu 77,6% des voix en Seine-Saint-Denis, ce qui est quand même assez énorme, ça se rapproche des 80%. Il a fait beaucoup de promesses, par exemple, notamment réduire les contrôles aux faciès, le droit de vote aux étrangers, réduire le taux de chômage, sauf qu'aujourd'hui, rien n'a été tenu. Fin octobre 2015, pour les 10 ans de l'événement de Clichy-sous-Bois en 2005, il s'est rendu à la Courneuve, mais il s'est fait largement huer. Pourquoi? Parce que tout le monde voit bien qu'en réalité, la banlieue, ils s'en servent juste au moment opportun, quand il le faut, et après, c'est fini, on laisse tout aux municipalités, aux collectivités locales, et en général, le gouvernement ne fait rien. Et les médias aussi, comme vous l'avez dit, comme tout le monde l'a dit tout à l'heure aussi, c'est qu'ils n'en parlent que quand franchement il y a un événement sensationnel. Mais si par exemple vraiment l'État ou le gouvernement fait vraiment une action pour réduire ou pour améliorer la vie en banlieue, personne n'en parle de ça. C'est juste pour créer de la sensation et pour vendre en gros, pour apporter.
La caisse qu'on va parler, coup bas de la basse. Les gens des phrases, les vrais reconnaîtront. Le vrai du phage, pas mon élévation. Ça monte les marches, la balance de mi-fond.
Moi, je trouve que c'est assez compliqué pour moi de savoir comment je me place par rapport aux politiques quand ils parlent de banlieue. Parce que d'un côté, j'ai l'impression, ou en tout cas, quand j'y repense, je me dis quand un politique va parler de banlieue, j'ai un peu peur. Quoi. Je me dis, il y a moyen qu'on s'en prenne plein la tête. Et en même temps, je vois qu'ils essayent de faire des efforts. Moi, dans ma ville, à Montgeron, dans 91, c'est les Républicains qui ont gagné au municipal. Et en fait, on avait un peu peur que on soit un peu oublié. Moi, j'habite pas dans une cité, mais j'habite juste à côté d'une cité, dans des pavillons. Et en fait, on s'est rendu compte que si, quand même, il y avait des travaux, on nous avait pas oublié, quoi. Et en même temps, c'est ça le problème, c'est qu'ils font des efforts, ils nous montrent qu'on n'est pas oublié totalement, mais en même temps, on nous casse du sucre sur le dos, mais tout le temps, quoi. Enfin, on s'en prend plein la tête. La banlieue est représentée par des actes minimes qui sont assez rares. C'est assez rare. Il n'y a pas des violences constamment dans la banlieue. On n'est pas en danger. Moi, personnellement, je me sens très... je suis en sécurité dans ma banlieue et je me sens justement un peu plus en danger quand je suis à Paris même. Et en fait, on montre pas à quel point on est cultivé. On montre pas à quel point on va au théâtre, on va au cinéma, on lit des livres... On a la même éducation à l'école que nos amis qui habitent à Paris. En fait, ça, on imagine que c'est pas du tout un aspect de la banlieue, alors que si, c'est un aspect de la banlieue. La banlieue est cultivée, la banlieue va à l'école, la banlieue a de l'ambition. Et du coup, voilà, je pense que c'est bien aussi de montrer qu'on est là et que, justement, dans la classe, on est tous dans une université. Paris 13, par exemple, c'est une très bonne université. J'étais à la Sorbonne Nouvelle avant et je préfère largement ici. Et du coup, voilà, on a tous plus ou moins des bonnes notes. On ira tous J'espère pour nous avoir un bon travail plus tard. Donc justement, on va leur prouver à tous, je pense qu'on n'est pas le cliché qu'ils essayent de nous faire croire.
Juste, je voulais rebondir là-dessus. Je pense que dans toute société, il faut toujours un bouc émissaire, et que là, on l'a trouvé, il est bien installé, et c'est la banlieue. C'est vrai que moi, je vais prendre l'exemple du journal télévisé. J'ai jamais vu ma banlieue à moi, celle que je vois tous les jours dedans. Enfin, comme vous l'avez tous dit, c'est vraiment, ils choisissent l'événement qui va faire parler de la banlieue, entre guillemets, telle qu'il la représente, pour juste couvrir un maximum d'audience. Après, peut-être que je me trompe, et ça c'est mon avis personnel, mais c'est vrai qu'en 19 ans, j'ai jamais vu ma banlieue à la télé, comme telle que je l'aperçois tous les jours.
Moi, je vais juste parler de mon point de vue personnel. Enfin, c'est quelque chose que je comprends pas, le fait qu'on veuille autant différencier la banlieue de Paris, c'est que j'habite en banlieue, et pour moi, ma vie, elle est exactement pareille qu'une personne qui habite à Paris. Enfin, je vois pas les différences. Enfin, pourquoi on essaye comme ça de dire en banlieue, c'est pas ci, c'est pas ça. Ma vie, elle est pareille qu'une Parisienne. Enfin, elle est pareille que mes habits qui habitent à Paris. Il y a rien qui change. À part que quand je veux aller au musée, oui, le musée, il va être à Paris. Quand je veux sortir en soirée, oui, je vais aller à Paris. C'est juste ça. C'est juste que je me déplace à Paris et que les Parisiens ne se déplacent pas en banlieue. Enfin, pour moi, c'est triste qu'on veuille montrer autant de différences comme ça, parce que pour moi, c'est vraiment pareil. Enfin...
Après, tu ne trouves pas que nous-mêmes, on stigmatise un peu notre banlieue ? Enfin, par exemple, toi, tu as parlé d'émeutes et on est énormément ici à avoir dit qu'il y avait eu des émeutes en 2005. Ça n'a jamais été des émeutes, c'était des révoltes et c'était hyper politique.
C'est vrai, parce que nous aussi, on est encerclés par cette image de la banlieue dangereuse et délinquante. Donc peut-être, dans un certain sens, nous aussi, on contribue à cette image, entre guillemets, de banlieue délinquante parce qu'on on vit dedans, en fait. Mais c'est cet inconnu qu'il faut briser, quoi, en fait.
C'est le mot de la fin. Merci beaucoup. C'était très, très intéressant. Vous avez bien joué le jeu du débat. Donc, on peut considérer qu'on va s'arrêter là.
Alors, où se trouve-t-on, Eline ?
On est au Resto U de la fac. C'est là où, en général, la moitié des étudiants, mais en tout cas, beaucoup d'étudiants viennent manger le midi. C'est là où c'est le moins cher, c'est là où on mange le mieux. Donc, en général, je viens ici. On est entouré un peu de verdure, les arbres. On se retrouve au milieu de la fac, mais c'est assez isolé des bâtiments. Donc, c'est assez agréable de manger ici. Il y a des baies vitrées partout. Donc, on est un peu dans la nature, ça fait plaisir. Quand je suis arrivée à Paris 13... En fait, je me suis sentie bien, ça allait. En fait, j'avais pas peur d'arriver à Paris 13. On m'avait dit que c'était un peu ghetto, etc. Moi, j'ai pas du tout eu cette impression-là. Je me souviens qu'on était avec les filles de la classe, on est arrivé pour manger ici pour la première fois, et les personnes qui travaillent ici nous avaient dit qu'il fallait faire attention à ses affaires, etc. Donc, on avait eu un peu peur sur la première fois, mais enfin, franchement, moi, j'ai pas peur quand je suis à la fac. Je me sens pas mal ou quoi que ce soit. Je me sens en sécurité. C'est pas du tout ghetto Paris 13. Pas du tout, pas du tout. Pour moi, c'est vraiment une chance, cette mixité à Paris 13. On peut parler de tous les sujets avec des gens concernés. Moi, c'est ça qui m'énerve le plus, c'est qu'en général, en France, on a l'habitude de parler de tous les sujets, mais pas avec les personnes concernées. On va faire des plateaux sur les musulmans, avec pas un seul journaliste musulman, pas un seul musulman sur le plateau. C'est quand même assez ironique, je trouve. Ici, on a de la chance parce que si j'ai envie de parler de l'islam, j'ai des amis musulmans, s'ils ont envie, évidemment, qu'ils peuvent parler avec moi. C'est un carrefour des cultures ici parce qu'il y a tout le monde, il y a vraiment de tout ici, c'est incroyable. Dans ma classe, je me retrouve avec des Turcs, des Syriens, une Syrienne, des Marocains, des Algériens, des Français, des Espagnols, des Portugais. Il y a vraiment de tout et moi je trouve que c'est extraordinaire. Et là, c'est là où je trouve qu'on représente la France plus que dans une autre fac. C'est là où je me dis, parce que la France, elle a plein de couleurs en fait. La France, c'est pas un pays de race blanche, quoi. C'est un pays de toutes les couleurs, qui a plein de facettes différentes.
D'où viennent vos parents ?
Mes parents sont kurdes, ils viennent tous les deux de Turquie. Ils ont immigré, mon père a immigré, il avait 17 ans, ma mère presque 20. C'est vrai qu'on a, c'est, le voyage c'est assez important dans ma famille parce que mes parents, enfin surtout ma mère, ont Enfin, ma mère a pris le même chemin que les réfugiés de Syrie actuellement. Elle a fait exactement le même chemin. Et quand on va en voiture en Turquie, on prend exactement le même chemin qu'eux. Je suis passée par la Hongrie, je suis passée par la Croatie, par la Macédoine, etc., la Grèce. Donc, c'est vrai que ça me fait bizarre de me dire que j'ai fait le même chemin qu'eux, sauf que moi, je suis passée à chaque fois parce que j'avais le bon passeport, quoi.
Et donc, le fait d'être issue d'une famille immigrée, d'étudiants en banlieue, ça vous donne quel regard sur la société française et sur l'image que peuvent avoir les réfugiés, que peuvent avoir les banlieusards ?
C'est peut-être un peu dur de dire ça, mais j'ai l'impression que je suis face à un racisme qui sera toujours là, en fait. J'ai pas la chance de voir la France comme mes copines françaises d'origine française peuvent la voir. Moi, je vois le racisme partout, je vois la haine de l'autre partout. Je suis face à ça parce que les réfugiés qui viennent sont beaucoup kurdes, beaucoup syriens, beaucoup irakiens. C'est des gens de chez moi qui viennent en France et aux États-Unis, etc. Et forcément, je me dis, si vous avez laissé ma mère venir, si vous m'avez laissé moi rester en France, pourquoi vous ne les laissez pas eux rentrer alors qu'on sait très bien que ce qui se passe là-bas, c'est absolument horrible. Donc,
vos parents parlent français ?
Mon père parle très bien français, mais ma mère a quelques difficultés. À la maison, on parle turc, on parle français, on parle kurde, on mélange un peu les trois. Mon père parle très mal kurde, ma mère parle bien, mais en fait, comme beaucoup de gens qui vivaient en Turquie à l'époque, dans les années 70, le kurde, c'était quand même une langue qu'on avait peur de parler. On l'étudiait pas, et on la parlait pas dehors de peur de se faire agresser, etc. Donc c'est vrai que ma mère parle un kurde très turquisé, on va dire, et moi, je parle très très peu. Je sais dire bonjour, ça va, mais je sais pas parler kurde. Je sais parler anglais, je parlais turc et je parlais français, mais le kurde, ça m'attriste beaucoup de pas savoir parler ma langue maternelle, quand même.
Et vos parents, ils ont fait des études supérieures ?
Non, pas du tout. Ma mère a arrêté l'école à 6 ans, je crois, et mon père a dû aller jusqu'au collège. Ma mère ne sait ni lire ni écrire. L'un comme l'autre ne sont pas allés à l'école. Vraiment, ils n'ont jamais pu avoir des vraies études comme moi, j'ai la chance d'avoir. Pour moi, je crois que je n'ai jamais vraiment eu le choix. Il fallait que je fasse des études après le bac, il fallait que je m'éduque, il fallait que je trouve un bon travail après. Ça a été presque une obligation, mais après, j'ai de la chance et j'ai toujours voulu aller à l'école. J'ai toujours voulu aller à la fac. Moi-même, je ne me posais pas la question. Mais c'est vrai que mes parents, encore aujourd'hui, sont vraiment derrière nous, aller à l'école... Même si vous êtes malade, vous allez quand même à l'école. Moi, j'ai eu la chance que ma mère n'a jamais eu. Je suis éduquée, je suis cultivée, etc. Ma mère est aussi cultivée, mais pas dans le domaine scolaire, on va dire.
Je peux vous demander de quelle confession vous êtes ?
Je suis de confession alévi. C'est plus une philosophie de vie qu'une religion. C'est une croyance assez compliquée parce que tout est ésotérique, tout est dans le... En fait, on utilise... des symboles musulmans alors qu'on est absolument pas musulmans nous-mêmes. Avoir plusieurs cultures, ça permet de voir plusieurs dimensions de la société. C'est-à-dire que par exemple, j'ai plein de copines d'origine française et elles arrivent peut-être pas forcément à comprendre pourquoi il faut que certaines personnes puissent garder leur culture en France et ne pas l'oublier et ne pas vouloir s'effacer en tant que personne avec une culture différente que la culture française. Pour moi, il est absolument normal, il est absolument important qu'une femme voilée puisse garder son voile en France. C'est comme tout en fait, il faut trouver le juste milieu. Il faut savoir vivre en France, accepter les lois françaises, ça me paraît logique, c'est le pays dans lequel on vit, on doit absolument s'habituer. Il faut respecter les règles, il faut respecter tout ça, tout en ayant le droit de rester qui on est aussi. Par exemple, moi je suis très fière d'être française, vraiment je suis très 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 fière d'être française. Je le revendique pas autant que d'être kurde, mais voilà, quand je vais dans un pays étranger, qu'on me demande je viens d'où, je dis que je suis française, je dis que je viens de banlieue parisienne et que je suis kurde aussi. Mais on doit me laisser le droit de vivre avec ma culture à moi aussi.
La banlieue au-delà des clichés, une richesse sous-estimée, telle était la grande question de cette émission aujourd'hui. À vous qui nous écoutez, j'espère que les éléments de réponse que nous avons apportés vous ont aidé à y voir plus clair. Vous l'aurez compris, cette émission touche à sa fin. Il est temps de se dire au revoir.
Au revoir Thibault.
Et merci beaucoup.
Au revoir, merci à tous.
Merci à toi Janice.
Merci beaucoup.
Merci à la technique. Lucie et Jean-Luc Osson. Merci à Ibrahim et Alexandre au montage. Et bien sûr... un grand merci à tous nos apprentis journalistes d'avoir depuis septembre travaillé à la création de tous ces reportages. Elisa, Emma, Benjamin, Mathilde, Samia, Kadiatou, Charlène, Elodie, Amina, Sylvain et d'autres encore. Merci aux L2, Hugo, Marc, Eva, Léa, Kevin et j'en oublie beaucoup. Et aussi, et oui, C'est ça la banlieue, c'est cette force-là qui nous a permis de réaliser cette émission. Merci aux responsables de la chaufferie de nous ouvrir leurs portes à chaque fois. Et merci au public d'être venu à la chaufferie de l'Université Paris 13. Merci à tous et à bientôt sur les antennes de 13e Monde.
Votre émission de radio, de la radio universitaire 13e Monde vient de se terminer. Thibaut, Janice, comment vous avez vécu cette heure d'émission ?
Alors, très stressée, je vais pas mentir, j'ai tremblé pendant une heure. Mais ouais, c'était cool au final. J'ai un sentiment plutôt de soulagement et de mini-satisfaction, ça va. J'avais pas trop confiance en moi au départ, mais là, ça va, c'était cool. Thibaut ?
J'avais déjà fait une émission il y a quelques temps, Janice, toi aussi, et ça s'était moins bien passé. Là, on était beaucoup mieux préparés, donc, du coup, on était stressé avant, mais au fil de l'émission, ça se passait bien, et voilà.
Et vous avez l'impression que le fait de pouvoir vous exprimer depuis votre fac sur ce qui compose votre quotidien, sur votre environnement, ça a du sens, c'est important pour vous ?
Oui, ça nous donne une certaine légitimité de parler de la banlieue, alors qu'on est de la banlieue, du coup, on a plus... moins extérieur que tout ce qu'on peut entendre en général. Et puis j'ai envie de dire, oui, quitte à parler de la banlieue, autant que ce soit les banlieusards qui le fassent. Donc voilà, pour moi, oui, ça, c'est complètement sensé.
Pour une fois, je suis du même avis que Janice. ouais, je pense que vraiment pour défendre la banlieue, il n'y a rien de mieux que des banlieusards et des gens qui connaissent vraiment le sujet plutôt que quelqu'un de l'extérieur qui essaye de parler en ayant enquêté rapidement.
Mais pareil, je me parle de l'anglais, mais je suis maîtrise espagnol pour tes trucs de petite hutte.
Non.
Non, tu vois.
Oh, isolé du monde, tu vois.
Sans personne.
Sans personne.
Au Pérou, sans personne, d'accord.
Sans personne, avec des brebis.
Non, mais tu feras deux jours là-bas.
Non, vraiment pas.
Ça m'est pensé à...
C'est un petit séjour de 6 mois.
6 mois, tout seul avec des brebis ou quoi.
Ouais, mais ça, c'est pour plus tard, tu vois. C'est un projet pour plus tard.
Oui, oui.
Il y a des choses à faire avant, mais en tout cas, pourquoi
pas. Non, mais je croyais en plus, hein, c'est sûr. J'y croyais, genre des sacs concrets, c'est le Pérou, les huttes, les petits voyages, les trucs, l'espagnol. Ou ben non. Alors, là, on est à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins entre l'UFR-com, l'UFR des langues, je crois. Il y a aussi le Resto U en face de nous, la chaufferie là-bas, les cafés Expo et cette petite aire de repos.
Vous êtes arrivée en quelle année ?
Je me suis dit que j'allais retenir cette date, parce que j'ai pris l'avion le 23 septembre 2013, je crois. Je sortais de Guadeloupe. J'ai passé mon bac et puis ouais, j'ai quitté ma maman et je suis venue ici pour les études jusqu'à Villetaneuse. J'ai bien jusque là parce que déjà c'est loin de la Guadeloupe, mais c'est loin de tout en fait, c'est loin de chez moi. Donc ouais, ça a été vraiment un grand départ.
Et qu'est-ce qui vous fait partir de la Guadeloupe pour atterrir à Villetaneuse ?
Je me pose la question en ce moment. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Non, mais il fallait parce que c'est super beau la Guadeloupe, mais niveau études supérieures, on est assez limité. Ensuite, il fallait parce que, pareil, je suis la plus petite chez moi. Et puis, étant donné qu'il restait que moi à la maison, ma mère, elle commençait déjà à devenir trop mère poule. Et il fallait que je montre que je peux, que je suis capable. Et après, Villetaneuse, ça n'avait pas été mon premier choix parce que j'avais plein d'autres choix à la sortie du lycée. Je vais aller à Montréal pour sciences politiques et philosophie politique. Mais pareil, elle m'a dit que c'était trop loin. C'était beaucoup trop loin d'elle. J'ai passé mon concours en école journalisme à 17 ans. Je l'ai réussi. Mais au vu du coût que c'est, en fait, sachant que mon frère est déjà dans une grande école, je me suis dit, bon, je vais passer par la fac. Et je me suis retrouvée ici en sciences de l'info.
Et vous arrivez à Paris 13, à Épinay-Villetaneuse. Vous dites que c'est loin de chez vous. Vous habitez où ?
J'habite à Vitry-sur-Seine, dans le 94. Je prends exactement, dans le meilleur des cas, 1h30 pour arriver ici. Dans le pire des cas, ce qui arrive souvent, 2h. C'est loin. Je commence par le bus, le 172, de Vitry jusqu'à Maison-Alfort. Là, je rattrape le RERD. Je m'arrête à Gare du Nord. Là, je prends le Transilien, la ligne H, jusqu'à, jusqu'à Épinay-Villetaneuse. Et puis après, comme tout le monde, je prends le bus 156 jusqu'ici. Donc, mis à part le TGV, je crois que je les prends tous. Et non, ouais, aujourd'hui, je regrette pas du tout. Je fais plein de choses, j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré plein de gens. Je fais beaucoup de trucs. Je fais, donc oui, je fais de la musique. Depuis que j'ai 13 ans, je fais du piano, des guitares depuis mes 16 ans. Du ukulélé depuis très peu. Du coup, je fais un peu de quelques concerts, comme quand j'ai des vacances, du temps libre, dans certains cafés, restaurants de Paris. À côté de ça, je suis bénévole dans l'association Café Zoïde du 19e à Lomière. Donc, c'est une association qui accueille les enfants entre 6 et 18 ans. Et j'y vais dès que je peux, c'est à la station de métro de Gare du Nord.
Et qu'est-ce que vous voudriez faire plus tard ?
Alors, pour le stage, je voudrais plutôt m'orienter vers les radios associatives. Donc je suis en train de démarcher. À côté de ça, qu'est-ce que j'ai prévu pour l'année prochaine ? Je sais pas, un break. Partir très loin, m'installer pendant au minimum 3 mois en Nouvelle-Zélande. Parce que voilà, c'est loin de tout. En même temps, c'est pas trop loin de chez ma mère non plus, donc c'est cool.
Vous allez suivre des études là-bas, un master ?
Je pense pas. Je vais sûrement y aller avec un sac au dos et une guitare, et je verrai ce que la vie m'apporte. Non, j'y vais surtout pour le challenge, en fait, pour le défi, et pour pouvoir dire plus tard, bah, à 21 ans, je suis partie avec un sac et je suis installée en Nouvelle-Zélande. À la base, j'avais un projet très carré, super. Super millimétré, je me suis dit à 23 ans je finis mes études, après le bac plus 3 je me relance dans les concours, je passe mes concours en école journalisme, j'y entre, je fais tout ce qu'il faut pour réussir mon bac plus 5 et ensuite à ce moment-là je découvrirai le monde. Et en fait j'ai lu Jeunesse française, bac plus 5, Made in banlieue, de Fabien Truong, sociologue. Donc j'ai lu ce livre-là parce que je devais l'interviewer et parce que déjà le titre est assez attractif en fait. Et c'est quelque chose vraiment qui m'a interrogée sur mon propre parcours d'étudiante. Concrètement, il m'a désorientée dans son livre et il retrace le parcours et la trajectoire de tellement de jeunes qui ont cet avantage, qui ont cette plus-value d'avoir essayé de voir plus loin en fait, de sortir de cette banlieue et de s'exiler. Et ça leur a apporté autant dans leurs études que d'un point de vue personnel. Et je pense que c'est pas après en fait que je devrais le faire, c'est maintenant. Je pense que c'est maintenant que ça se joue. Et faut tenter, j'ai rien à perdre de toute façon. Donc voilà, j'ai tout revu, j'ai tout remis en question une fois que j'ai fermé le livre. Et je me suis dit, bon bah déjà je passe mon diplôme maintenant et puis l'année prochaine on part.
Janice, on arrive à l'arrêt de bus ?
Oui, le bus de Paris 13. C'est plus le bus de Paris 13 que le bus de la RATP. Là, je suis un peu en speed, comme tous les soirs, en fait. C'est un peu plus compliqué parce qu'on est en pleine période d'examen, mais un peu en speed. Là, je rentre à la maison, je pose mes affaires, je prends mon uniforme et je me dirige vers Charenton, où je travaille dans une pizzeria. Et je vais rentrer à la maison vers 23h minuit, ça va être triste.
Et demain, vous avez des examens en plus.
Demain, j'ai des examens, demain matin, et puis demain, je retravaille. C'est dur.
Tous les soirs, je mange un rire, habitué, je me pète les neurones. Je fais du bif en stress, j'ai plus de casquette, pétale la cour Angela. Même maladie qu'Eminem dans 8 Mile. Si je m'en vexe, c'est programmé pour vous mettre mal. Chaque fois que je m'esclave, les condés se cassent dans mon espace. Laisse place, je suis comme un coco.
Université Paris 13, une fac dans ma banlieue, avec Sydney, Ellie, Justine, Marc, Raphaël, Éline et Janice. Et aussi Thibaut, Emeric, Léa, Ferhat, Thaïs et Tatiana. Merci aux étudiants de licence des sciences de l'information et de la communication. Merci à la présidence de l'Université Paris 13 et au personnel des services centraux, services culturels, direction de la communication, services audiovisuels de l'IUT. Merci à Guy Bilisco. Musique originale Ligne Blanche, prise de son Laurent Gros, mixage Bernard Laniel, attaché d'émission Christine Bernard et Alison Sinard, coordination Irène Omelian-Enco. Un documentaire de Judith Maillère et Julie Bérécy pour Sur les Docs.